Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h04, on y revient au Mastic, on est dans le super Moscato Show comme tous les jours. Vous savez qu'on est là de 15h à 18h du lundi au vendredi, mais ça vous le savez. Est-ce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le Stifouné Brun? Comment il va, mon Stifouné?
Salut Vincent, salut tout le monde, en pleine forme.
Ça va?
Tout va bien, mon ami Vincent, en pleine forme. Voilà, écoute.
Bon, bah, très bien.
Affûté comme une lame. Peut-être 2-3 blagues vont sortir dans la première heure.
Bourg-en-Bresse est champion d'Europe en plus, donc le basket français se porte bien.
Le basket français sur le toit de l'Europe, Bourg-en-Bresse, les poulets, voilà, ils sont là.
Les poulets de Bresse. Ça, c'est bon, ça. C'est là, mais le poulet en broche. Attends. Il est là, Denis Charvet. Comment ça va, mon Denis?
Mais ça va, mais c'est impeccable. Écoute, un grand de forme. Je viens de croiser un grand boxeur dans les coulisses. Qui, qu'on va recevoir bientôt. Non.
Ah, Christian, il frappe, hein, Christian.
Qui?
Christian, il frappe, attention.
Ah non, Christian, oui, c'est.
Non, mais Christian, c'est la trappe. Attends, je l'espère. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un peu de la trappe des Hagler et compagnie. Vous ne trompez pas. C'est les mêmes catégories. Et, je ne sais pas si vous rappelez les combats mythiques des années 80. Hagler, Ernst et tout ça. Roberto Durand, ça, le Cobra, tout ça. C'était magnifique, magnifique. Et Christian est de cette trappe. Adrien Aigouin, comment il va? Un peu comme Adrien, qui lui, on appelle frappe quelques coups dans le milieu.
Christian est parfait. Frappe quelques coups. On a tenté la boxe avec Siro et on s'est très vite rendu compte que c'était pas pour nous.
Dommage.
On a essayé, un jour j'ai entendu le mollet de Pierrot claquer à côté
de moi,
bam, le mollet explosé, Pierrot arrête carrière, et moi un jour je suis tombé, on l'a raconté 10 fois, un mec qui me marave, qui me démonte mon casque et qui tombe dans ses fentes et tout, je dis mais qu'est-ce que tu fais dans la vie toi, je me renseigne, il me dit je travaille à la BAC, je me suis fait démonter par un policier.
À la BAC il y a des molesteurs, il y a des mecs qui s'y connaissent,
il m'a molesté. Il est 15h06, la question moyenne du jour, football. Attention, intéressant. Quel est le plus probable cette année? Deuxième ballon d'or pour Dembélé.
Oui, on veut.
Deuxième d'affilée, comme Platini, comme Cruyff, comme Messi, comme Ronaldo.
Monde,
ils sont pas nombreux, hein. Van Basten également, on en fait deux d'affilée. Ou premier ballon d'or pour Michael Olise. Quel est le plus probable cette année? Elle est très, très compliquée.
Tu dis Dembélé, toi?
Dembélé pour
Dembélé.
Si les champions, c'est Dembélé. Si c'est le Bayern, ce sera.
Il y a la Coupe du Monde,
Vincent. Non, mais il y a une Coupe du Monde, tu peux pas savoir. Et c'est dire celui qui sera champion du monde.
Mais le problème, c'est que ça veut dire.
Ça peut être Yamal, par exemple.
Oui, mais ça veut dire que si c'est Yamal, c'est éliminé en quart de la Ligue des Champions, il part de loin.
Ne tenez pas en compte Yamal. C'est Dembélé ou Olise.
Parce que, alors, moi, c'est la Ligue des Champions qui fera la différence.
Bien sûr.
C'est parce que. L'équipe de France, les deux, si jamais la France est champion du monde,
mais tu peux avoir un des deux qui est déterminant en Coupe du Monde.
Et oui, c'est ça.
Imagine Olise, il met un doublé.
Moi, je mets Dembélé.
Dembélé pour Vincent. Denis Charvet.
Olise. Et méfiez-vous que la Coupe du Monde ne sacre pas quelqu'un qui n'est pas forcément pas allé loin en grand.
Mais puis arrêtons de nous chauffer sur la Coupe du Monde, que ce soit complète pas quart de finale.
Dernière Coupe du Monde, c'est
Messi
qui a gagné. Stephen Brown.
Ousmane Dembélé,
Pierre Dorian.
J'ai l'impression que la hype est du côté de Michael Olise là.
Ah, ouais. C'est en train de monter.
Comme c'est des votes, c'est important.
Ouais. À nous de faire en sorte que la hype promette sur Ousmane.
Ousmane va faire en sorte, t'inquiète pas.
On va faire en sorte.
Ah, il est confiant, Pierrot.
Non, mais Ousmane, attention, hein, il met des buts fantastiques cette année. Hein. Oui, il en a mis beaucoup moins que l'année dernière, mais il met des trucs incroyables.
Il met des buts. Alors, de Ousmane.
On est sur un. Oh, mais alors là, en fait, comme aujourd'hui, il fait qu'une heure, Stephen, il va tout donner. Allez, ça va être un festival. Reste bien là. Il y a une réponse. La France du Moscato chaud sur Twitter répond.
C'est la même famille de Delahousse.
Oui. De 83%.
Oui.
C'est monsieur Michael Olise qui aura son premier ballon d'or.
Les mecs, tu les influences. Non, mais c'est des girouettes, les mecs. Tu les influences en 2 minutes.
Mais c'est la génération TikTok.
Mais ça va voter les présidentielles.
Les influences, c'est surtout le joueur qui nous influence.
Vous êtes des girouettes.
Non.
Ousmane, mais soyez un peu fidèle quand même à Ousmane Dembélé, quand même, qui nous a fait gagner l'an dernier, qui va vous faire gagner la Coupe du Monde.
Après, attention, Kiki peut mettre tout le monde d'accord en 5 ou 6 matchs de Coupe du Monde. Kylian.
Kiki quand même, je serais inquiet quand même, je serais.
Bah,
il
se régénère.
Il faudrait pas qu'il tire le banc. Hein. Attention,
il fait du frais.
Est-ce que tu crois que Deschamps est capable de mettre Mbappé sur le banc?
Deschamps à droite, c'est Dembélé en pointe.
Dembélé plein badin et que t'as Olise qui est plein badin. Je vais te dire un truc, après t'as Barcola tout ça.
Le capitaine sur le banc, t'imagines?
Pour qu'il aille sur le banc, il faudrait qu'il soit vraiment.
Oui,
il faudrait qu'il ait un problème physique.
Exactement.
Mais sinon, quand même, jamais. Au nom des services rendus, déjà c'est compliqué.
S'il est pas bon,
n'oubliez pas que Deschamps est pressenti pour aller au Real, donc il va pas se mettre à dos son
guichet. Ah,
donc il va faire son coaching en fonction de son futur.
Le club des amis.
Il est sous protoxyde d'azote.
Il y a des joueurs qui vont jamais sur le banc. Vincent Moscato n'allait jamais sur le banc.
Si, je l'ai vu.
Bon.
Tu l'as vu sur le banc, toi ?
Pourquoi il était sur le banc ?
Pour quelle raison ? Pour quelle raison ?
Je plaisante, tu vas me tuer.
Il dit rien, Ça te fait rire, Denis.
Toi, Denis, t'as joué
le banc,
toi ? J'ai
été
sur le banc, oui,
avec l'équipe de France, bien sûr. J'ai sur le banc, j'ai décidé.
Alors, le programme. Dans 15 minutes, Christian Billy va tout nous dire de son combat qui est en négociation contre Canelo, la légende de la boxe. Avant ça, du tennis. Rodar ou Fils ?
Rodar.
Qui est le troisième homme, selon vous ? Et puis, bien sûr, on continue sur le PSG avec le forfait d'Hakimi. Qui nous donne un débat très intéressant à 17h. Le PSG est-il plus fort que les coups durs ? Et bien sûr, ce week-end, c'est Champions Cup de rugby. Un doublé en Coupe d'Europe, est-ce plus important qu'un Brennus pour des clubs comme Bordeaux, hein, qui sont rarement champions de France, hein. Vincent règle le problème. Journal moyen, la première édition est à 15h45, comme tous les jours sur RMC.
Comme tous les jours sur RMC, à 15h45, un documentaire va sortir, Vincent. On va tous se jeter dessus, c'est sûr. Un documentaire sur la plus grande crise historique du foot français. Et où également, attention, une bière bretonne crée la polémique à consommer avec modération. Rendez-vous 15h45.
Et donc dans le Kikadi, on vous offre votre montre Kelton. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16 pour vous inscrire au tirage au sort. Mais tout de suite, qui est le rookie de l'année en tennis ?
RMC, le Super Moscato Show.
Arthur Fils, c'est la promesse du tennis français.
On va être chauvin.
Ingrid qui est chauvin.
Le plus jeune joueur du top 50 mondial.
Et après, de toute façon, devant les grands champions, comme avec Novak, qui va s'aplater comme une crêpe.
Derrière ses apparentes certitudes se cache parfois de la nervosité.
Il menait deux manches à une et s'est fait réveiller d'entrée de quatrième. Pourtant, il n'avait pas perdu sa mise en jeu depuis le début du tournoi.
Une ascension fulgurante grâce à deux demi-finales.
Quand je joue ce terre battu, il y a peut-être il y a une addiction à l'odeur,
fait de marcher dessus, le toucher avec les pieds, tout ça, c'est...
Le rookie du circuit ne perd pas de temps.
Tu as affronté aujourd'hui ton cousin français, Arthur Rinderschneck. Arthur Fils débarqué sur le circuit, disait vouloir être numéro un mondial et gagner un grand chelem en moins de 5 ans.
Et mon tout, un point commun avec Stallone. Pourquoi ? Parce qu'il va peut-être être rookie.
Quoi ?
Il va peut-être être rookie.
Breaking news.
La toux à la fin.
Attention, les gars. Je vous rappelle, c'est 8 minutes de comédie tous les matins.
Celle-là, elle est exceptionnelle.
Alors, rookie, ouais, génial.
Alors, le Masters 1000 de Madrid nous offre un beau tableau avant Roland Garros, Vincent, puisque le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, s'est vu proposer coup sur coup. Les deux ambitieux du tennis mondial, Rafael Rodar, l'OVNI espagnol, battu 6-2, 7-6 hier. Et puis, Arthur Fils demain, en demi-finale. Une bonne manière d'étalonner les deux joueurs qui rêvent de contester la suprématie d'Alcaraz et de Sinner. Selon vous, qui a le potentiel, qui a le plus de chances d'être le troisième homme, Fils ou Rodar ? Anthony Reich va nous présenter cet OVNI espagnol. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Alors, c'est un nom qu'on prononce et qu'on entend depuis en gros le mois de janvier. Hein. Alors, les spécialistes, ok, le connaissaient d'avant, mais pas le grand public. Son ascension est fulgurante.
Hein. Ouais, pour sa première saison sur le circuit principal, Pierrot, eh bien, le Madrilène de 19 ans impressionne. Rafael Rodar, c'est un joueur d'1m91, droitier, revers à deux mains, doté d'une frappe lourde et capable de reléguer n'importe qui quasiment à 3 mètres de sa balle en un seul coup de raquette, surtout avec son coup droit dévastateur qui fait un peu penser à celui de l'Argentin, souvenez-vous, Juan Martín del Potro, vainqueur du tournoi de Marrakech il y a quelques semaines sur terre battue. Seul Arthur Fils et Yannick Sinner l'ont fait tomber cette saison sur l'ocre. Il impressionne la planète tennis par son niveau de jeu, évidemment, même s'il paraît un peu frêle par moment physiquement, mais aussi par sa sérénité sur le court. L'actuel 42e mondial est déjà très centré sur son schéma de jeu lors des rencontres et ne se laisse pas forcément déborder par ses émotions. Malgré son jeune âge, il semble en maîtrise, mais dans 3 semaines, il va découvrir un autre univers, celui de Roland-Garros et le combat en 5-7 sur terre battue, l'un des plus gros combats dans le tennis.
Et juste en un mot, est-ce qu'on sait s'il est capable de briller ailleurs que sur terre ?
Oui,
on le sait déjà, je veux
puisqu'il
dire.
Il a gagné l'US Open Junior en 2024. Ah oui. Il a évolué en parallèle de ses études beaucoup sur le circuit américain, beaucoup de challengers qu'il a remporté. Donc c'est quelqu'un qui s'est gagné aussi sur d'autres surfaces.
Alors hier donc, Rodar battu par Sinner 6-2-7-6, mais en lui donnant du fil à retordre, notamment dans le deuxième set. Demain on va voir ce que vos fils face à Sinner sur un Master 1000 sur terre battue en deux manches, donc Vincent. Pour l'instant, Fils a un peu d'avance.
Oui, il a un peu d'avance, mais je pense que c'est les mêmes talents. Ils ont à peu près, enfin, Arthur Fils est un peu plus vieux, il a 22 ans, non? 23 ans. Mais c'est à peu près les mêmes. C'est difficile d'en différencier l'un de l'autre. Je crois que, tu vas voir, Arthur Fils va faire le même résultat. S'il prend Sinner, ça va être la même. Ça va être 6-2, 6, ouais, 6-2, 6-2, pour pas dire 6-2, 6-0.
Il était au tie-break.
Hein. Ouais. Écoute, faut qu'ils s'affrontent tous les deux. C'est difficile de dire que tant qu'on les a pas vus, c'est difficile.
21 ans, Arthur Fils. 21.
Mais ouais, on va voir. Il faut qu'ils s'affrontent. C'est difficile. Ils ont le même profil. Ils ont les mêmes. Peut-être des différences au niveau du talent, mais je crois que c'est quand même deux mecs très prometteurs. On va attendre de les voir se confronter l'un à l'autre, et là on pourra juger.
Tu penses que c'est l'un face à l'autre qu'on va pouvoir savoir, face à Sinner ou Alcaraz?
Oui. Pour la suprématie des deux, il faut attendre un peu qu'ils se règlent sur deux trois parties. On verra après qui dégage le plus de qualité, qui est supérieur à l'autre pour le moment, parce qu'après ça peut rechanger encore. Mais bon, là c'est un résultat contre Sinner. On va attendre, on verra ce que fera Fils, mais ça donnera pas d'énormes indications non plus. Okay. Mais d'après moi, ils sont actuellement au même niveau.
Steve.
Écoute, je crois que vous allez quand même vite en besogne sur ce débat pour un garçon qu'on découvre depuis deux mois.
De Rodard.
Non, mais j'étais tempéré, moi.
Non, de toute façon, t'as été très bien, comme d'habitude, mais voilà, il s'appelle Raphaël.
Ah, c'est mon métier.
Il s'appelle Raphaël, il est bon sur terre battue, tout de suite, on nous fantasme le successeur de
Raphaël Nadal. Fils, je signale.
Moi, je pense qu'Arthur Fils a quand même pas mal d'avance sur Rodard. Alors, il a deux ans de plus. Enfin, moi, ça m'intéresse de parler d'Arthur Fils comme éventuellement un concurrent à Sinner et Alcaraz. Arthur Fils, il est quand même beaucoup plus de référence. Alors, l'autre est un jeune joueur, mais moi, j'ai aucune idée de ce qu'il vaut sur Wimbledon. Arthur Fils, je sais que sur gazon, il a déjà fait une deuxième semaine à Wimbledon. Rodard, peut-être qu'il a fait des performances en challenger sur dur, mais sur le circuit, il a quand même, sur le début de saison, il a quand même pris quelques roustes, sur dur indoor. Il a des qualités. Oui, il a des énormes qualités. Il a un coup droit foudroyant, mais Arthur Fils a un coup droit foudroyant. Le petit Blox, le Belge, là, qui vient de sortir Casper Ruud à 21 ans, il a un coup droit foudroyant aussi. Et en fait, si on parle de ça, c'est qu'il y a de la place, bien sûr, derrière les deux autres. Mais être le troisième homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire être troisième mondial, ou non, ça veut dire être capable de gagner le grand chelem
Être le Wawrinka.
Parce qu'aujourd'hui, le troisième homme, c'est Zverev. Ça veut dire qu'il faut être capable d'être meilleur qu'Alexander Zverev, qui est troisième mondial et qui n'a pas gagné un grand chelem encore. C'est peut-être le meilleur joueur du circuit ATP n'avoir pas gagné de grand chelem. Donc Rodard, il a 19 ans, c'est très bien. L'ascension est folle parce qu'il était, je ne sais pas combien mondial et qu'il se retrouve aujourd'hui, il va être quasiment dans les 30.
36
à la fin du tournoi. La progression est peut-être, alors c'est jamais simple.
36 même, à 19 ans.
Mais c'est quand même plus simple de gagner des places. Après, c'est quand même plus compliqué de monter. C'est sa première vraie saison sur le circuit. Ce que fait Arthur Fils, j'ai envie de mettre l'accent dessus. Fait Arthur Fils, c'est-à-dire qu'il joue des garçons qui sont aujourd'hui 10e, 15e mondial. Il met deux petits sets à l'EHK. Il a mis deux sets à Ogier Eliassim. Il y a quand même des certitudes sur un niveau de jeu
moyen. C'est plus solide déjà.
Fils, aujourd'hui, je trouve au-dessus de Rodard. Hier, tu me dis, il y a 6-2-7-6. Oui, tu l'as vu le match ou pas, Pierrot?
Non.
Sinner, pour moi, j'ai trouvé que c'était un petit Sinner. Mais 7, il déroule. Il se fait un petit peu peur. Il finit par 11-0, Sinner. C'est-à-dire qu'il fait un jeu blanc sur le service et après, il lui met 7-0 au tie-break. Donc, quand c'est le money time, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une différence de niveau. Je suis curieux de voir parce que c'est le vrai premier match étalon pour Arthur Fils cette saison, face à un top 2, parce qu'il n'a pas joué encore ni à Carlos Alcaraz ni Sinner.
Il peut y avoir match? Déjà là,
je pense que Sinner est plus craintif de jouer Arthur Fils qu'il ne l'était de jouer Raphaël Rodard. Arthur Fils a beaucoup de choses en magasin pour embêter Sinner.
Rodard, il y allait en sifflant, là il a bossé un peu quoi. Je pense.
Là, il a foutu le crayon.
Maintenant Rodard, on va voir parce qu'il y a son grand chelem, son expérience, c'est l'Open d'Australie où il bat un Japonais au premier tour et il perd au deuxième tour. Moi j'ai envie de voir ce garçon là 19 balais sur un tournoi de terre battue.
Mais dès qu'on voit l'Espagnol sur terre battue, on dit
il s'appelle Rafa.
Sur un format des 5-7, j'ai envie de le garçon, parce que le problème c'est que quand t'es 350e mondial et que tu fais des tournois, t'as pas énormément d'attentes, c'est reste que des surprises. Là il va arriver peut-être tête de série à Roland Garros, c'est pas le même statut de Raphaël Rodard. La hype que tu disais sur au lycée, il va falloir la supporter.
Oui, Raphaël Rodard, on rappelle que c'est pas que parce qu'il s'appelle Raphaël et qu'il est bon sur terre,
mais il y a quand même une influence, Pierrot, il y a quand même une influence des quais d'Espagnol qui est pas mal sur terre battue.
Vincent, les Espagnols ont toujours bien travaillé.
Oui, mais il y a quand même d'influence, ça veut pas dire qu'il est meilleur qu'Arthur Fils, tu vois.
Non, mais c'est
il a 19 ans, moi d'après moi,
Arthur, il est devant, quoi. D'être bon sur terre quand même.
Oui, bien sûr, Anthony, on le sait. Sur terre battue.
Ce mec, il a été levé en voyant Alcaraz grandir, en voyant Raphaël avant.
Alcaraz grandir, parce qu'ils ont que 4 ans d'écart.
Oui, mais enfin, oui, mais 4 ans, c'est énorme, parce que l'autre, il a déjà 6 grands chelems.
C'est beaucoup,
et puis il a badé Alcaraz. Donc, moi, pour dire, pour répondre à la question de troisième homme, oui, moi je pense que c'est pas que 6 affrontent, comme disait Vincent. Je pense que c'est le révélateur, c'est ce qu'ils vont faire contre Sinner ou Alcaraz, tout simplement. Et on verra. Si Fils ne gagne jamais contre Sinner Alcaraz, il restera toujours derrière. Et puis si l'autre commence.
Après, tu peux être troisième,
mais oui, bah, évidemment. Sinner, hein. Oui, non, mais troisième, ça veut dire. Quand on, enfin, le débat, c'était pour dire qui c'est qui va en prendre un, non, en gros.
Éventuellement.
Là, on en est loin de prendre un grand chelem.
Non, oui, mais la situation arriver, du tennis, elle est très claire aujourd'hui. Il y a deux mecs qui sont très au-dessus.
Après, oui, c'est ouvert.
Ensuite, il y a une génération qui est bonne, mais qui n'est pas à ce niveau-là. Et puis, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui eux n'ont pas atteint leur max. Et donc, c'est ces joueurs-là qui sont les plus intéressants pour challenger Sinner et Alcaraz, tout simplement.
On n'a pas cité Fonseca, mais Fonseca est un peu dans le même registre.
Brésilien.
Qu'à veut dire dans la qualité, je veux dire, il est capable d'aller lutter contre un Sinner ou un Alcaraz.
Après, il y a des garçons qui sont jeunes, qui sont déjà Ben Shelton,
Oui, mais Shelton, il franchit pas. Ouais. On voit que Shelton, c'est quand même, ça arrive toujours en demi, quart, demi, et après, ça, il n'arrive pas à passer le cap. Et il me semble, Shelton,
oui, c'est pas mal déjà.
Moi, je le vois jouer, non, mais j'adore ce joueur en plus, mais tu sens que mentalement, il n'arrive pas à dépasser, enfin, je sais pas, à passer le cap.
32-16, Fils ou Rodard, qui vous semble être le troisième homme du tennis mondial? N'en déplaise à Stephen Brun. Yannick, Yannick nous appelle pour parler de tennis.
Bah, c'est Yannick, c'est l'italien.
C'est Yannick Sinner ou c'est Yannick Noir?
C'est Yannick Noir. Bonjour Yannick.
Salut Yannick.
Bonjour.
Ah non, aucun des deux.
Ni l'un ni l'autre.
Non, ni l'un ni l'autre.
C'est Yannick le chanteur.
Alors Yannick.
C'est son rêve là.
C'est plutôt Jordan ou Fils?
Bah, pour moi, c'est fils. Pour moi, à l'heure actuelle, il a pas vraiment de, bon, bien sûr, Sinner, oui, mais je veux dire, dans les outsiders, Fils, pour l'instant, il a pas vraiment d'équivalent. Il a survolé le tournoi de Barcelone. Là, il est en train de survoler le tournoi de Madrid. Bon, demain, ben, de toute façon, on va être fixé demain de savoir qu'est-ce qu'il peut faire sur cette surface face à Sinner. On le saura demain en demi-finale. Donc après, moi, pour moi, le seul qui peut vraiment espérer rivaliser contre un des deux grands à l'heure actuelle, c'est Fils.
Il est au-dessus.
Et
en termes de potentiel.
On a vu hier Jodard. Hein. Jodard, le premier set,
Il a fait l'effort.
Jodard.
De Perpignan en plus, quoi, quand même. À Perpignan.
Et sur le potentiel,
il ne te semble pas de ce niveau-là, Rodard?
Ah non, pour moi, pour l'instant, non. Après, c'est le début de la saison sur terre battue, donc on verra vraiment. Mais après, pour l'instant, Arthur Fils est largement au-dessus de Rodard.
Merci Anthony Reich.
Arthur Fils est quatrième à la race.
Ouais.
Sans avoir joué en janvier. Ouais. Je suis déçu, Denis, t'as passé une soirée avec Yannick Noah l'autre jour. Il t'a dit quoi sur Arthur Fils?
Il lui a pas posé la question.
Il a dit qu'il
gagnerait pas Roland, que ça sera encore lui le dernier.
Voilà, c'est honnête.
Merci Yannick. Dans un instant, on va se projeter sur un grand combat qui est en négociation.
Oui.
Celui entre Christian Billy et Canelo Alvarez, la légende de la boxe du Mexique. À tout de suite.
Il est 15h23, on est dans le super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h27, on y revient au Mastic. On est dans le super Moscato Show, comme tous les jours, 15h-18h. Le Stifounet Brun est avec nous. Denis Charvet est avec nous. Adrien Gouet, mon petit Pierrot, dans une demi-heure, fais-moi craquer le
bras. Dans une demi-heure, on va parler rugby Champions Cup avec la quête du doublé de Bordeaux. Un doublé en Coupe d'Europe. Ah. Est-ce que c'est aussi marquant qu'un titre de champion de France, qu'un Brennus? Alors là, on parle pour des clubs comme Bordeaux ou comme La Rochelle, qui ne sont quasiment jamais champions, évidemment. Hein. Bah c'est ça l'intérêt de ce débat. Pour le Stade Toulousain,
La Rochelle
n'a
jamais
titre.
La Rochelle jamais champion.
Mais ils ont fait ce doublé.
Oui, ils ont fait le doublé. Et le dernier titre de Bordeaux, c'était grâce à Vincent Moscato et tous ses copains, 1991.
Grâce à Vincent,
une équipe qui a marqué l'histoire du top 14, quand même.
Absolument.
Pas dans le jeu, mais dans la vie, on va dire.
16h sur RMC, le rugby. Mais tout de suite, c'est la boxe.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
Notre cri du cœur du Super Moscato Show, c'est Christian Billy, champion du monde, WBC des super moyens. Salut Christian.
Salut Christian.
Vous avez la forme?
Oui.
Christian, aussi, ça fait 10 ans presque qu'on te suit. Et
c'est gentil. Et j'essaie vraiment vous remercier. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Et c'est incroyable.
Je pense que je t'ai rarement vu avec un tel sourire.
Ouais. Ah bon? Il fait content là.
Non, il fait beau. Je suis à Paris, il fait beau, je fais le touriste. Forcément, je suis content. D'autant plus que
moi, c'est pas la boxe qui te fait sourire, c'est de avoir un vrai rancard là tout à l'heure.
Vincent, je suis content de te retrouver en antenne aussi. Ça joue aussi dans l'humeur.
Alors, il y a une raison de se réjouir puisque tu as déclaré à l'équipe il y a quelques jours que ça sent très bon pour la tenue du combat contre Canelo qui aurait lieu le 12 septembre à Riyad. Donc, qui sera un combat événement évidemment parce que ça ferait, on le disait l'autre jour, peut-être 10 ou 20 ans qu'on n'a pas eu un tel combat pour un combattant français. Est-ce que tu peux nous faire l'update? Où on en est exactement?
Où on en est, monsieur. J'aurais aimé venir avec une excellente nouvelle en disant que tout est signé, tout est acté. Canelo, je vais le taper au mois de septembre. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais la bonne nouvelle,
malheureusement, ça n'est pas encore.
Ce n'est pas encore le cas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les partis sont d'accord pour faire ce combat. Mon équipe et moi, nous sommes d'accord pour faire ce combat. Canelo et son équipe sont d'accord pour faire son combat.
Est-ce que c'est pas ça le plus important? À partir du moment où t'as l'accord de Canelo.
Et surtout, très important aussi, c'est que l'organisateur, le promoteur, Turki Alashi, est d'accord pour faire ce combat. Malheureusement, les négociations, ça reste des négociations, il y a des hauts et des bas. Malheureusement, dernièrement, on s'est envoyé un peu chier. Les négociations ont repris. Pour une question de bourse, pour une question d'entente.
Une question d'argent, quoi.
Pas que ça, il y a aussi quelques détails du contrat aussi qui font un peu chier, mais ça c'est pas le plus grave on va dire. Mais dans tous les cas les négociations ont repris et on espère closer ce contrat d'ici un mois grand maximum, sauf embûche ou sauf.
Pour toi ça va se faire?
Pour moi je pense qu'il y a des chances que ça va se faire.
Alors, il y a
95%. Mais en boxe, on n'est jamais sûr de rien.
Mais quand tu dis combat, ça fait 10 ans que tu l'attends. Donc, j'imagine que tu es prêt à faire quelques petits sacrifices, entre guillemets, de pas te prendre la tête sur des trucs qui sont peut-être pas ultra importants pour
absolument sur l'oseille,
non. Sur l'oseille, nous a dit non.
Vous savez, on n'a pas des salaires de fouteux. Enfin, moi, j'ai pas de salaire de fouteux. Canelo aussi, par contre.
Oui.
Et ça fait 10 ans maintenant que je suis boxeur professionnel. Ça fait 10 ans que j'ai sacrifié ma vie pour ce sport.
Donc c'est maintenant là.
Mais c'est maintenant.
Celle-là, ça va être une des plus belles. Là, on est d'accord.
J'espère. Je pense. Et on se dirige pour ça. Mais encore une fois, vous savez, on parle d'argent, on n'a pas des salaires de footeux, malheureusement. Si on veut parler d'argent, aller voir Mbappé, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant.
Mais Christian, il faut... On va juste préciser un truc. Si tu es optimiste, c'est parce que l'accord de Canelo, sans cet accord, il ne se passera rien. Aujourd'hui, il n'est peut-être plus dans les mêmes dispositions que lorsqu'il était le champion incontesté en titre. Là, il doit aller regagner des ceintures.
Exactement.
Pour le moment, c'est moi le champion. Partir du moment où il t'a donné son accord, c'est là où tu peux te dire que la barre, elle arrive vers les 100%.
Exactement. C'est là que la barre arrive vers les 100%. Mais encore une fois, la boxe, ça reste de la boxe. Bon. On sait jamais.
Reste l'incertitude de la négo.
On l'a vu avec ton Ioka. Il y a tout ce week-end. Mais je vous rassure, ce combat va se faire et je touche du bois évidemment, même si on n'est pas sûr à 100%, mais
tu vas le gagner. Alors bien ça, on va en parler dans un instant. Évidemment, du lui-même. Juste pour ceux qui suivent pas la boxe au jour le jour, il faut rappeler qui est Canelo. C'est une légende de la boxe. C'est l'un des meilleurs boxeurs de ces 20 dernières années, sans aucune contestation. Qui a été champion dans 4 catégories, qui a été champion unifié des super moyens, qui a été détenteur d'au moins une ceinture pendant une durée de plus de 10 ans. Donc ça vous pose quand même le champion que c'est et qui vient de perdre ses titres. Enfin, il y a maintenant un peu plus d'un an face à Terence Crawford. Crawford, qui est aussi un grand champion, mais qui lui est parti à la retraite en laissant ses ceintures. Une de ses ceintures est maintenant autour de la taille de Christian. Et je rajoute quand même, et ça c'est très important pour ce qui est du niveau du combat, c'est qu'aujourd'hui Ring Magazine classe Canelo Alvarez numéro 1 de la catégorie des super moyens. Il est toujours considéré comme le meilleur.
Exactement. Exactement. Et toujours considéré comme le meilleur. Je pense que je suis numéro 2 ou numéro 3.
Et toi,
3,
ça t'énerve.
Moi, ouais, ça m'énerve. C'est sûr que moi, j'ai envie de prendre la place de numéro 1. Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est sûr, la question, le combat va se faire. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il va tomber avec le crochet gauche ou l'hypercute droit? Et je veux l'avis de Vincent sur ce sujet. Mais est-ce qu'il va tomber avec le crochet du gauche ou avec l'hypercute du droit?
Imagine le combat, Vincent.
Qu'il va tomber, tu vas l'attaquer sur des crochets gauches, sur ton direct du gauche d'entrée. À un moment donné, tu vas glisser ton crochet gauche, il va se rabattre, tu vas le prendre sur ton hypercute, ça va être crochet gauche, hypercute, tu vas redoubler sur ton crochet gauche. C'est comme ça, je te l'annonce, c'est écrit.
Voilà. Excellent, voilà. Ça, j'aime ça. Excellent.
Combat terminé.
Excellent, Vincent.
On a exactement ce qui va se passer. C'est réglé. Par contre, je voudrais te poser une question. Excuse-moi, Denis. Je voudrais te poser une question. Dans ton contrat, il y a une dimension des gants qui est prise en compte ou c'est toujours la même? On a souvenir d'Agler contre Léonard. Tout ça, on a ce souvenir. Toi, t'étais trop jeune, mais en fait, tu le sais, tu connais l'histoire de ton sport où il y avait une embrouille sur l'épaisseur, sur le nombre de pouces au niveau des gants.
Exactement. Ça arrive encore des embrouilles dans les choix des gants. Moi, je suis suivi et sponsorisé par, Rival Boxing. Et lui, il a une autre marque. Je sais pas si c'est un Verlas ou un autre. Et ça n'est pas arrivé que lors des choix des gants. Maintenant, les choix, ça se fait avec les coachs entourés, avec les boxeurs, avec le staff, l'adversaire. Et
il n'y aura pas de souci, tu penses, hein, de ce point de vue-là?
Ça n'est pas arrivé.
Tu fais attention au bandage.
C'est ça, faire attention au bandage. Il y a toujours, c'est très surveillé. Très surveillé. Il y a toujours une solution. Il y a toujours un gant de rechange ou d'autres possibilités.
Christian Billy dans le Super Moscato Show. Denis, il y a quelque chose qui me surprend, Christian, c'est que tu as l'impression que tu doutes jamais. En fait, que tu es comme habité par rapport à ce combat-là, que c'est un peu ton destin, en fait. Et est-ce que c'est ta nature ou c'est le contexte qui fait que...
C'est ma nature. Vous savez, je suis très... très très optimiste. Je suis une personne très optimiste et je suis très chanceux aussi. Je sais que je suis très chanceux. Maintenant que je suis rendu là, je me rends compte qu'en fait je suis vraiment très chanceux et je pense que ma chance va encore sourire. Pourquoi? Parce que je prends Canelo au bon moment. Ça fait combien de fois que je viens ici pour vous dire
10 ans.
Je veux Canelo.
Depuis la première fois que j'ai
fait les JO,
c'est ça. Et 2016. Je pense que j'aurais pas pu avoir meilleur comme timing pour taper Canelo. Je suis sur la pente montante et sur la pente descendante. C'est vrai que j'ai eu un match nul la dernière fois. Lui, il a eu une défaite. Et je suis très optimiste. Pour le moment, j'ai pas commencé à analyser ses combats, mais j'ai pu voir. On a fait la même carte il y a 6 mois maintenant. Et je me suis dit là, la porte est ouverte. J'ai vraiment la possibilité de gagner ce combat. Ça va être un combat dur, un gros combat, un combat très dangereux. Et je pense que j'ai toutes les capacités physique, mental et intellectuel pour aller chercher cette victoire.
Est-ce que lui est toujours aussi dangereux qu'avant?
On va dire que un petit peu moins, mais il reste dangereux. Il était déjà très dangereux il y a 5 ans. Il reste toujours aussi,
à 35 ans, c'est dangereux.
Ça baisse un petit peu, mais il faut savoir que Canelo, c'est déjà alors la préparation, c'est une puissance financière incroyable par rapport à moi. Je pense que sur mes camps d'entraînement, je vais peut-être dépenser, je sais pas, 30% de son camp d'entraînement à lui. Il a les moyens d'aller chercher les meilleurs médecins, les meilleurs sparring, les meilleurs nutritionnistes. Et à ce niveau-là, ça fait pas toujours la différence,
Son corps aura toujours 35 ans quand tu veux jouer.
Vous savez, j'ai lu un article tout à l'heure qu'il est allé voir un spécialiste, je sais plus dans quel pays, en Espagne, pour le retirer toutes les inflammations de son corps.
Ah ouais.
Et évidemment, c'est un truc qui coûte super cher. Et il disait que maintenant il a le corps d'un enfant de 23 ans. Et vous irez voir sur internet, dans un interview, il dit
ça. Vincent peut t'aider financièrement si t'as besoin d'aller en Espagne.
Bon, Vincent, on a besoin
d'aller en Espagne.
On veut lever des fonds pour la fondation solide.
Christian, je vais pas te mentir, moi aussi.
Faut garder la ceinture à la maison, Vincent. Fais un effort, s'il te plaît.
Je vais pas te mentir, moi aussi, j'ai le corps d'un enfant de 23 ans.
Est-ce que justement, ça c'est ce que tu as lu dans la presse, mais est-ce que comment ça se passe? Imaginons, bon, le combat c'est dans quelques mois, on résume. Est-ce que tu arrives à avoir des infos sur l'état dans lequel il est, sur comment il est en ce moment, comment il s'entraîne? Est-ce que tu as des infos en coulisses? Est-ce que ça se passe comme ça aussi?
Non, moi bon, on a plus des infos par les médias. On a vu dernièrement qu'il s'était fait opérer du coude après le combat. Il a annoncé qu'il a fait son premier sparring il y a à peu près quelques semaines. J'ai vu également qu'il aide Munguia lors de sa préparation, Munguia qui combat au mois de mai là. Et je pense qu'il allait en bonne forme. J'ai vu des interviews de son coach qui disait que je suis le favori pour les combattants qui veulent combattre et que Canelo est en pleine forme, qu'il a retrouvé il a retrouvé toutes ses capacités physiques. Je pense qu'il est en forme.
Est-ce que face à une légende, tu pars avec un handicap vis-à-vis des juges arbitres?
Tant mieux.
Non, mais est-ce qu'il est mieux arbitré, entre guillemets, au vu de son statut?
Je sais pas. Je pense pas. En tout cas, il faut pas oublier que c'est moi le champion. C'est moi le champion. Après, normalement,
après, si Christian met des coups et qu'il touche,
c'est ça. Tu lui percutes le crochet du gauche.
Et le crochet, bien sûr.
Pierre, il dit, si tu as égalité, après, par exemple, si ça se joue, peut-être, ça toi,
non, mais grand-chose. Automatiquement, grand-chose. Le champion, le Canelo, il sera mieux arbitré comme le PSG ou le Real Madrid. Le champion ou le Stade Toulousain peut être toujours un petit peu, mais c'est infime. Mais après, Christian, si tu fais un énorme combat, si c'est flagrant, s'il le met par terre, il sera donné gagnant. Je voulais te demander, Christian, combien te faut à ce niveau-là de rounds de gants en entraînement de bon niveau pour pouvoir être compétitif, être champion du monde là?
À ce niveau-là, pour la préparation de ce combat,
combien tu vas faire?
Combien
tu vas faire de rounds?
Je vais commencer le round de sparring. Je vais commencer. Je vais sûrement faire 2, 3, 4 rounds de 4 rounds, 4 fois 4 rounds, et ensuite je vais monter à 6 rounds, 8, 10, 12. Non, par session de sparring. Session. Et ensuite je veux redescendre à 6, 4 et 2, d'accord, 3.
Juste ça fera quoi? 200 rounds, 150.
Ouais, 150. Peut-être moins, on va dire. Non, quand même moins, 100, ouais, grand max, 100. Grand max.
100 maximum.
Parce que j'essaie
pas trop d'abîmer.
J'ai pas trop envie de m'abîmer et j'arrive à un âge où on essaye d'éviter des grosses sparrings ou d'en faire trop pour
de
rien.
De prendre des coups.
Faut faire des sparrings efficaces. Pas en excès. À mon niveau, ça m'apporte plus grand chose, sauf baisser mon espérance. C'est mon espérance en tant que boxeur.
Il y a le promoteur qui va organiser à Riyad le 12 septembre, qui organise une réunion là au Caire. Tu y es invité. Est-ce que éventuellement là-bas, il pourrait y avoir une annonce du match contre Canelo?
Je sais pas. J'espère. On espère. En tout cas,
Canelo, il sera lui.
Je pense qu'il sera sûrement invité. Dépendamment de comment ça va se passer des négociations, on espère que avant ça ou au plus tard là-bas, l'annonce sera faite. Encore une fois que le contrat sera signé, on aura les informations un peu plus claires sur le sujet.
Christian Billy dans le Super Moscato Show.
C'est Netflix qui peut couvrir ce combat.
Je pense que c'est Netflix ou DAZN. Les deux sont en train de se battre. J'ai l'impression que c'est DAZN qui a un petit peu l'avance à ce sujet. Ouais, mais
je trouve Netflix super.
C'est
vraiment
vrai,
moi
c'est
je
vrai.
Regarde. Ah, je trouve Netflix extraordinaire.
Ils font des trucs incroyables en ce moment. Incroyable.
Et juste pour vous mettre l'eau à la bouche, les adversaires les grands combats de Canelo, ça a été Shane Mosley, ça a été Floyd Mayweather, c'était Miguel Cotto, c'était trois fois Gennady Golovkin, ça a été donc plus récemment avec cette défaite contre Terence Crawford. Donc c'est des immenses affrontements.
Et c'est Christian Billy qui
a Christian, en un mot, c'est quand même quelque chose, tu en parles avec le sourire, mais c'est le combat dont tu as rêvé toute ta vie.
C'est vrai. C'est vrai que je reste, honnêtement, pour être sincère avec vous, je reste très positif actuellement, mais je pense qu'à l'intérieur de moi, ça boue. Et je pense que lors de la préparation, je vais avoir une pression, c'est sûr. Je vais aller au cœur léger, mais je sais que je dois performer. Je sais que ça fait des années que j'attends.
Les semaines avant, j'ai toujours. Ça va être dur. Les semaines avant, la
pression. C'est sûr, ça va être dur. Surtout, on a déjà eu une mise en bouche avec le combat à Vegas où il y a eu des médias incroyables. C'est la première fois que je suis entré dans ce genre d'événement où c'est des médias sur médias sur médias avec une pression incroyable. Dieu merci, c'est arrivé parce que là, maintenant, je serai prêt pour cet événement historique avec Canelo.
C'est prévu le 12 septembre.
On croise les doigts, Christian.
Et dès que c'est bouclé, tu nous envoies un petit message.
J'espère que je serai encore en France. Je reviendrai.
sur le plateau et essaye de nous organiser qu'on fasse le Moscato Show depuis là-bas.
Riyad. Christian aura autre chose à penser pour préparer.
Oui, c'est vrai. On va essayer de voir dans une autre direction, mais là, c'est Harpagon qu'on a en haut, alors c'est quand même les
équipes de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet. Salut Christophe.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Alors il y a une demi-finale de Coupe d'Europe aujourd'hui.
Eh oui, il y a un club français en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est Strasbourg, c'est l'Europa League Conférence et le Rayo Vallecano, 11e du championnat d'Espagne, a gagné tous ses matchs à domicile sauf un. C'était contre les Turcs de Samsunspor, mais après avoir gagné 3-1 là-bas en Turquie, donc une équipe pas facile à manœuvrer, mais Strasbourg a gagné tous ses matchs à l'extérieur, sauf un, c'était à Mayence, lors des quarts de finale. Donc match vraiment compliqué à pronostiquer. 2-10 le Rayo, 3-35 le nul, 3-25 la victoire de Strasbourg. Je ferai le Rayo ne perd pas, les deux équipes marquent, ça serait mon premier pari à 2-0-5. Et puis si on rajoute un Palasson décisif. Bon. Alors je sais Denis que tu ne le connais pas celui-là.
Non, Vincent.
On passe à 4-3.
Le Rayo à domicile, il faut le jouer. Voilà. Et on jouera à Strasbourg au match retour.
Allez, je te suis.
Rayo. Exactement. Allez, ça.
Nul pour moi.
2-10 pour le Rayo, 3-35 pour Denis.
Merci Christophe.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans un instant, Journal Moyen, première édition.
On va revivre, grâce à un documentaire, un des épisodes les plus fous de l'histoire du foot français. Je vous en parle dans Journal Moyen, première édition. C'est tout de suite.
Allez, les 15h44, le super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient, on va signer le super Moscato Show, on est sur RMC, c'est le journal moyen d'Adrien Higouin, première édition.
Il y a une sorte de camoulox, je me sens, parce que Christian Billy file à la salle de boxe, là, c'est la salle où j'essaie de faire du sport.
Il est parti à des hommes, je t'ai jamais vu, c'est bizarre.
Ouais. Non, mais dans la vie, parfois, il y a des trucs un peu curieux.
Incroyable.
C'est à côté de mon bistrot préféré, c'est pour ça. À la une du journal moyen, première édition, l'actu, la culture, les médias, les documentaires sur le foot. Parfois, Vincent, je sais que ça t'embête un peu, mais là, je pense que tu vas y jeter un petit œil. Une bière bretonne crée la polémique. Et puis un petit tu préfères culinaire, parce qu'on est gourmand dans le journal moyen, dans le Moscato Show. Vous écoutez RMC, c'est le 2638e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Une série, ou plutôt, c'est quasiment une série, c'est un documentaire qui va faire l'événement. Sur Netflix, forcément, Vincent, que tu adores Netflix, et forcément, on va tous regarder, on va faire un voyage dans le passé. Il y a 16 ans déjà, souvenez-vous, il y a 16 ans déjà, nous étions en 2010. Et je me souviens, moi je travaillais déjà à RMC, Pierrot aussi, c'était la fête du foot.
On a entendu cette chanson.
C'était la fête du foot, Shakira, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la Coupe du Monde 2010, la France rêvait d'un joli parcours, de l'équipe de France de Patrice Evra, Malouda, Ribéry, Gourcuff, Anelka, Henri. Franchement, sur le papier, on avait une superbe équipe. On pouvait pourquoi pas rêver d'un quart, d'une demi. C'était pas mal, on sortait d'une finale de Coupe du Monde en 2006 quand même, toujours avec Romain Domenech, mais... ils ont tout gâché. Ils se sont crachés. Netflix sort un documentaire événement le 13 mai. Le bus, les Bleus en grève. Documentaire, Vincent, qui va retracer en détail tout le fiasco, l'épisode de Naïsna, les joueurs, images hallucinantes, des éditions spéciales, même sur CNN à l'époque, la grève des joueurs de foot de l'équipe de France. Moment lunaire, fou, hein. Historique. Il y aura les témoignages.
Ah, Ribéry, c'était le mieux.
Ribéry, les claquettes, c'était le quelques heures avant Naïsna. Foot, c'était, là, il ne faisait pas encore grève. Il y aurait les témoignages de Galas, Rosine Bachelot, qui était mise des sports, Bakary Sagna, Robert Duverne. Vous vous souvenez de Robert Duverne, le préparateur physique, qui balance son chrono quand il apprend que Evra lui dit non, mais nous,
on
s'entraîne pas. Il y a Raymond Domenech et notre copine Estelle Denis qui témoignent, puisque cet épisode a eu des conséquences. Elle nous l'a raconté, Estelle, sur leur vie. Elle était la compagne de Raymond Domenech. Il y a des journalistes qui l'ont pisté en bas de chez eux, dans Paris, quand ils sont rentrés en France. Franchement, le teaser, même sans l'image, donne envie. C'est pour vous donner envie. On revit des moments hallucinants. Si on avait voulu l'écrire à l'époque, on serait dit c'est trop gros. Mais non, c'était la réalité.
Wow. C'était démesuré, même par rapport à Raymond Domenech.
Je l'ai jamais vu.
J'ai pas envie.
va te faire en sale fils de.
La rumeur d'un clash devient réalité.
Jamais une telle crise n'avait été vécue par le football français.
C'est la plus grave crise du sport français.
On a affaire à une honte nationale.
J'ai jamais voulu en reparler.
Voilà, ça dure comme ça. Franchement, ça donne envie puisqu'on revit des scènes hallucinantes, les dirigeants qui pleurent au bout de.
Patrice Evra est très chaud dans le documentaire. Patrice Evra.
Il a l'air très chaud. C'est pas tout ce qu'il va dire, mais ça. Bah, Patrice Evra, hein, il va dire des choses. Raymond Domenech, Vincent, t'as raison.
Il prend jamais la parole pour rien.
Non. Oui. Et moi, j'ai hâte d'entendre Raymond, Vincent, que tu as toujours défendu dans ces histoires. Raymond Domenech, c'était dur pour lui. Hein.
Parce que le léchage populaire, je trouve ça catastrophique par rapport à un entraîneur de foot. Voilà, c'est qu'il n'a pas été très bon, c'est sûr. Ouais. Mais là, ça a pris une ampleur. Mais bon,
c'était fou.
Je veux dire que même, je sais pas si sa vie n'était pas en danger à un certain moment.
Bah, c'est
le plaireau de ce milieu. C'était incroyable.
Quand tu écoutes Estelle Denis, tu te dis qu'ils ont eu très peur. Ouais. Moment, ils ont dû.
J'ai toujours eu les boules. J'ai toujours eu les boules par rapport à ça. J'ai dit non, mais ils sont dingos, les mecs. C'était fou. Quoi.
C'était fou. Pierrot, tu y étais. Et Fred Pouillet, qui est un magicien, qui était un Aïsna pour la technique. Non! Il a tout loupé. Parce qu'à ce moment-là, il était au restaurant, il a pas capté ce qui se passait. Donc il a loupé Nice Naf, Frédéric Touyen, le premier son
producteur. Et toi, Pierrot, tu étais au cœur du réacteur.
Non, parce que moi, j'étais pas sur l'équipe de France.
Et du coup, à l'autre bout du regarde Internet sur son téléphone, il dit hop, je vais peut-être rentrer au boulot parce qu'il se passe des trucs.
C'était une pauvre Coupe du Monde. C'était une pauvre Coupe du Monde.
Pour les Bleus, c'était horrible. Moi, j'avais vu le premier match.
Après, il y avait l'Espagne. C'était horrible, ça a tout gâché. C'était pourri. Moi, je me souviens même pas.
J'avais vu un match au Cap.
L'Espagne, le premier match contre le Sénégal,
vous pouvez pas écouter la télé, t'étais obligé de.
Mais vous êtes là,
au fond du fétou.
Mais t'avais pas envie de l'aimer, cette équipe de France, ça, le problème.
Au début, si, il n'y avait pas d'a priori, puis c'est parti en sucette.
C'est le 13 mai, ça va faire l'événement.
Raymond n'a pas été le meilleur là-dessus aussi. Il était mauvais comme un cochon, mais bon, c'était comme ça.
Sans transition, direction.
Ah ouais, dégueulasse.
La Bretagne. Ça danse en studio. Une histoire de bière, Vincent. On aime bien la bière, à consommer avec modération. Une histoire étonnante de bière, c'est l'histoire d'Aurélien Picard. Il est gérant d'une brasserie à Banalec, dans le Finistère. Sa brasserie s'appelle L'Imprimerie, petite brasserie de village, sympa. Et depuis plusieurs années, pour la blague comme ça, il vend une bière au citron qui s'appelle John Lemon. Vous avez la référence,
bien sûr,
John Lennon. Sur l'étiquette, un dessin du rocker qui porte des lunettes en forme de citron. Donc la bière John Lemon, elle est sympa, une petite lemon. Voilà. Ouais. France 3 Bretagne et ici Brésil. Nous rapporte que début mars, il reçoit un courrier. Courrier, c'est sérieux, une enveloppe genre officielle, quoi. Mise en demeure. Mise en demeure envoyée par les avocats de Yoko Ono, la veuve de John Lennon. Aurélien, au début, il dit à France 3, il dit franchement, j'ai cru que c'était des potes qui me faisaient une blague. Oui, parce que cette bière, elle marche, on rigole. En fait, il est allé sur Internet et il s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres cas de gens qui faisaient des jeux de mots sur John Lennon ou qui utilisaient son image et qu'ils attaquaient, ils attaquaient en permanence. Donc, il lui a laissé du temps parce que s'il continue à vendre de la bière, c'est 250€ par jour de pénalité. Donc, il a jusqu'au 1er juillet.
Il va arrêter, non?
Jusqu'au 1er juillet, ça arrive vite, hein, pour écouler 5000 bouteilles qui restent pour pas perdre d'argent.
Oui, il les boit lui-même.
Il a proposé une sorte de nouveau nom, il est en train de négocier avec les avocats de Yoko Ono, il veut l'appeler John Lemon. Il va voir si ça passe. Jaune comme la couleur.
Ça passera pas. Non, mais ça passera pas.
Ah, c'est pas
ça,
mal. Ça.
Non, mais tu sais quoi? Je vais te dire, ça passera pas.
Parce que
c'est
du temps à capter.
Vincent,
c'est une allusion au chanteur. Écoute-moi, mais ça se fait automatiquement. Mm-hmm. Je vais te dire, c'est presque automatique.
John Lemon, c'est comme s'il y avait une machine. Bon, hein.
Dès que tu ressembles, dès que tu machines. Ben, moi, Moscato avait le pinard.
Et oui.
Le pinard, si tu fais un truc dessus, tu reçois quelque chose.
Ah ouais.
Parce que le Moscato d'Asti, mais ça se fait automatiquement. Je sais même pas si c'est les bureaux d'avocats. Ça se fait par rapport à la propriété intellectuelle.
Courrier d'avocat, mise en demeure.
Oui, mais c'est
et il négocie avec les avocats là pour essayer de
Il va négocier, puis il va peut-être gagner. C'est pas sûr qu'il perde.
John Lemon, c'est pas mal. John Lemon,
même Steve, il avait pas pensé.
Non, mais c'est très bien. John Lemon.
Jaune,
mais là, il appelle Robert et puis voilà, Robert Lemon.
Il explique qu'il a halluciné. Dans le Finistère, tu reçois un courrier au nom de
Tu fais Jean Lemon. Jean Lemon.
Ou tu fais Anne
Anne Lemon, ouais.
Anne Lemon, ouais.
Greg Lemon,
c'est moi.
Il y a José Garcia qui a fait Rosé Garcia, mais c'est vraiment à lui, par contre.
Oui, c'est vrai.
Il y a pas des soucis.
C'est son vin, non. C'est son
Rosé. Ah, mais non, mais c'est son pinard à lui, Rosé Garcia. Mais ils ont fait d'autres mecs. Rosé, ils font Rosé Garcia, ils font Rosé.
Sardou.
Dans ta vie, Vincent, depuis que t'es connu, combien t'as reçu de photos de gens qui boivent du vin Moscato d'Astille qui te l'envoient en photo? Combien de photos?
Mais je vais te dire que chaque fois que tu fais un truc, une pub, tout ça, boum, t'as des fois, t'as des courriers, quand même, tu sais pas pourquoi, mais
tu les vois pas.
C'est mon nom.
Tu les vois pas comme
ça. T'es obligé un peu, parce que quand même, on sait jamais s'il y a un mec qui te tape de 20 000.
Ouais, c'est vrai que le jour où t'as pas eu un courrier, t'avais 50 amendes dans Paris qui attendaient.
Eh ben ouais, si t'as des amendes de partout, après, c'est quand même assez désagréable, mais ça se fait automatiquement.
Dans un instant, la Champions Cup avec les demi-finales de Bordeaux et Toulon ce week-end. Un doublé en Coupe d'Europe est plus important qu'un Brennus. Vincent règle le problème tout de suite sur RMC.
15h56, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.